Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
C'est une des grandes énigmes de l'histoire maritime que Franck Ferrand nous propose de résoudre aujourd'hui. Bonjour Franck.
Bonjour Céline, bonjour à tous. L'énigme en question est donc celle de la Marie Céleste, ce vaisseau fantôme découvert en 1872 sans aucun passager à son bord. Et pour l'explorer, j'ai fait appel à notre loup de mer favori, l'écrivain Dominique Lebrun, pour qui la mer n'aura bientôt plus de secrets.
Et que ferez-vous à la fin de l'émission ?
Eh bien, je répondrai à la question de Caroline.
Exactement. Caroline vous demande de revenir sur l'origine de l'expression « il y a belle lurette ».
Eh bien, voilà. Ce sera la deuxième énigme du jour. Pour la première, nous allons embarquer, si vous le voulez bien. Nous allons prendre le large et essayer de retrouver cette Marie Céleste, vaisseau fou, errant sur les mers, tout imprégné de doutes et de mystères.
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Je m'apprêtais pour commencer à vous dire que l'affaire de la Marie Céleste était sans précédent et sans exemple, et je me dis que Dominique Lebrun aura plein de précédents et d'exemples dans sa musette et qu'il vaut peut-être mieux que je sois prudent. En tout cas, c'est un cas particulièrement intéressant sur lequel se sont penchés les meilleurs spécialistes pendant des décennies avant de parvenir à formuler un certain nombre d'hypothèses qui toutes sont crédibles finalement. C'est ça qui est le plus étonnant. C'est une histoire donc qui commence en 1872 à New York City, le soir d'Halloween. Ça tombe bien, on est déjà dans l'ambiance, il fait nuit, il y a de la brume sur les quais de l'East River. Je vous parle de New York, mais attention, du New York de 1872. Il ne faut pas du tout imaginer la forêt de gratte-ciel que nous connaissons. Il n'existe pas encore à l'époque, évidemment. Même la statue de la liberté n'a pas encore vu le jour. Elle n'arrivera aux États-Unis qu'une quinzaine d'années plus tard. Nous sommes donc sur les quais et nous poussons la porte d'une taverne jusqu'à une petite table où sont installés deux amis, marins l'un et l'autre. Que dis-je marin ? Capitaine de navire, s'il vous plaît. L'un des deux s'appelle Morehouse, David Reed Morehouse. Il s'apprête à traverser l'Atlantique à bord d'un brick goélette canadien, plus exactement originaire de Nouvelle-Écosse. Le navire en question est un voilier à deux mâts. Il mesure 30 mètres de long sur 8 dans sa plus grande largeur, avec un tirant d'eau de 3,50 mètres environ. Il s'appelle le Dei Gratia, autrement dit la grâce de Dieu. C'est une circonstance à une époque où traverser l'Atlantique reste une aventure assez dangereuse. Morehouse doit transporter une cargaison mixte d'huile de baleine et d'alcool, rhum et whisky, à destination de différents ports de la Méditerranée, et il évoque les routes maritimes possibles avec son vieux copain. Alors qui est en face de lui ? Eh bien, c'est Benjamin Briggs, capitaine d'un autre brick goélette de la Nouvelle-Écosse, tout à fait similaire au premier, et qui s'appelle, nous y voilà, la Marie Céleste. Ça n'a d'ailleurs pas toujours été son nom. Au moment de son lancement, 11 ans plus tôt, en 1861, le navire s'appelait Amazon. Il n'a été rebaptisé Marie Céleste qu'au moment de son changement de pavillon quand il est devenu américain en 1868. Car depuis 4 ans, le navire appartient à la firme Winchester et compagnie, sachant tout de même que Briggs en est propriétaire pour un tiers. Lui aussi s'apprête à traverser l'Atlantique et une partie de la Méditerranée jusqu'à Gênes, avec dans sa cale, et ça c'est très important, quelques 1700 fûts d'alcool sur un lit de 30 tonnes de pierre pour le lest, parce que sinon ça ne serait pas une cargaison assez lourde. Il s'agit cette fois ni de rhum ni de whisky, il s'agit d'alcool destiné à renforcer des vins italiens, alcool qu'il est impossible de boire, je le précise tout de suite, vous allez voir pourquoi. Ce soir-là, à la taverne, les deux hommes décident de se retrouver aux Açores pour amorcer ensemble la partie du voyage jusqu'à Gibraltar. C'est la partie réputée la plus dangereuse du fait des courants qui sont puissants là-bas. Cette idée de se retrouver aux Açores rassure Briggs, qui est plus jeune. Lui n'a que 38 ans. Il est un petit peu moins expérimenté que Morehouse. Du reste, Briggs ne s'embarque pas seul dans cette longue traversée. Comme c'est la coutume à l'époque, il emmène avec lui sa jeune épouse, Sarah, et la plus petite de leurs enfants, Sophie Mathilde, qui a 2 ans. Le grand frère Arthur, qui lui a 7 ans et va donc à l'école, a été laissé à la garde de ses grands-parents maternels dans le Massachusetts. Sarah Briggs est une jeune femme saine et robuste, très comme il faut, dont la présence à bord est un vrai bienfait pour son mari, disons-le. Tout simplement pour parler clair, grâce à elle, la maison sera tenue. Et puis, l'ambiance est tout de même plus douce quand même, vous avouerez. Notamment, Sarah Briggs a fait suivre à bord une sorte d'harmonium en bois de rose, qu'on appelle un mélodion, sur lequel elle joue des airs pieux. On est quand même dans un contexte très puritain, hein, c'est l'Amérique des années 1870. Néanmoins, cette intrusion d'une jeune femme et d'une petite fille à bord agace peut-être un peu certains matelots superstitieux et surtout misogynes. Briggs dispose d'un équipage restreint mais efficace. Le second Richardson, avec un lieutenant danois, un cuisinier, quatre matelots, des Dutchmen, ce qui, pour les Américains à l'époque, recouvrait des marins originaires indifféremment des Pays-Bas, d'Allemagne, enfin de tous ces pays de l'Europe du Nord. Pour l'anecdote, je signale qu'il y a aussi à bord le chat de la petite fille, un matou rayé gris qui s'appelle Tiger, le tigre. La Marie-Céleste a donc quitté New York le 7 novembre de cet an de grâce 1872 et les premiers jours se sont déroulés sans encombre. Tous les deux ou trois soirs, le capitaine Briggs note sur le journal de bord les nouvelles de la traversée, rien que de très banal. Que se passe-t-il pendant ce temps-là à bord de l'autre voilier, le Dei Gratia? Eh bien là aussi, sauf à être un féru de navigation, il n'y a pas grand-chose à retenir. Le brig a quitté New York quatre jours plus tôt, le 11 novembre. À bord, les journées succèdent aux journées, avec de temps à autre un grain plus méchant ou une mer un petit peu creuse, et même deux tempêtes qui n'effraient pas tellement un capitaine expérimenté comme peut l'être David Morehouse. En fait, tout se passe bien jusqu'au 4 décembre, dans le début de l'après-midi. Et là, d'un seul coup, la traversée routinière va basculer dans l'extraordinaire. Il est exactement 13 heures quand la vigie signale une voile à l'horizon. Morehouse saisit sa lunette, on voit mal. Quelques minutes encore et la vigie précise qu'il s'agit d'une autre goélette. Tiens, se dit Morehouse, on n'est pas loin des Açores, et si jamais c'était Briggs avec la Marie-Céleste? On se rapproche du navire qui paraît voguer un peu bizarrement par grandes embardées. Morehouse donne des ordres pour l'approcher encore. Or, déjà d'assez loin, le capitaine reconnaît la Marie-Céleste. Mais ce qui est assez bizarre, c'est qu'elle ne soit pas déjà à quai aux Açores. Elle était partie plus tôt. Or, en même temps, Morehouse s'étonne de la voilure choisie par Briggs. Il a sorti seulement le foc et la trinquette, ce qui ne correspond pas au vent modéré de cette journée-là. Décidément, il y a quelque chose qui cloche. Et plus le Dei Gratia s'approche de la Marie-Céleste, et plus Morehouse s'interroge. Il est maintenant tout près, il ne voit personne à bord, pas de vigie, personne à la barre. Ben, on dirait un vaisseau fantôme. Morehouse attrape son porte-voix. « Ohé, Briggs, vous m'entendez? Ohé, vous avez besoin de secours ?» Pas de réponse, seulement le bruit du vent dans les mâts et les cordages. Cette fois, Morehouse sent l'angoisse s'emparer de lui. Il ordonne à son second, un Français qui s'appelle Olivier Deveau, dit « Oli », de mettre une chaloupe à l'eau et d'aller aborder la Marie-Céleste avec quelques hommes. Bien sûr, les ordres sont exécutés. Une demi-heure plus tard, Oli est à quelques encablures de la Marie-Céleste. Or, ce qu'il voit aurait de quoi glacer les sangs de n'importe quel marin. Comme dans les vieux contes de sirènes et de serpents de mer, le navire qu'il a sous les yeux paraît naviguer sans âme qui vive. C'est une goélette déserte, comme abandonnée, qui fait son chemin au milieu des vagues. La chaloupe se rapproche encore, Oli et ses deux matelots s'arriment à la coque, ils se hissent à bord à l'aide de filins cassés. Pour la forme, ils appellent, ils crient, ils sifflent pour révéler toute présence, même mourante. Mais ils n'ont pas besoin d'inspecter longtemps la Marie-Céleste pour constater que ni Briggs, ni sa femme, ni sa fille, ni un membre quelconque de son équipage ne sont plus à bord. Olivier Deveau et ses hommes viennent d'entrer de plein pied dans une véritable histoire de vaisseau fantôme.
Thank you.
Saint-Pierre sur Europe 1, un extrait de l'opéra Le Vaisseau Fantôme, dirigé par Sœur Georges Solti. Nous revenons avec vous, Franck Ferrand, à notre vaisseau fantôme, la Marie-Céleste.
Alors, des centaines d'articles, des dizaines de livres ont été écrits sur l'incroyable histoire de la Marie-Céleste. On a tout dit à ce propos, tout est son contraire. Rien que sur l'état du navire au moment où le second du Dei Gratia et ses hommes l'ont inspecté, on a répandu les bruits les plus fantaisistes. Je vais donc essayer, si vous le voulez, de démêler un peu le vrai du faux. D'abord, ce qui paraît avéré. En ce 4 décembre, le navire est entièrement désert. La dernière mention sur le journal de bord remonte à 10 jours, le 24 novembre. Le dernier point sur l'ardoise de quart à 9 jours, le 25 novembre. Et sur le pont avant, deux panneaux censés fermer la cale sont retirés, ce qui offre des trous béants par lesquels des paquets de mer se sont engouffrés. Il y a environ un mètre d'eau dans la cale, mais ça provient sans doute en très grande partie donc de ces deux ouvertures dans le pont, tout simplement. Du reste, les pompes sont en parfait état de marche et d'une façon générale, c'est ce qui bien sûr va fasciner tous les spécialistes et va susciter tant d'interrogations, d'une façon générale, l'ensemble du navire est en parfait état. La cargaison, elle aussi, est en bon état, elle n'a pas bougé. Le garde-fou d'un côté du pont a été enlevé, comme pour laisser passer une chaloupe. Or, il n'y a plus sur le pont aucune embarcation de sauvetage. La cabine du capitaine a été envahie par les eaux, mais là encore rien d'étonnant. La porte se trouve grande ouverte, donc évidemment l'eau est allée jusque-là. Le lit est trempé, il restait défait, ce qui ne ressemble pas tellement aux habitudes de Mrs. Briggs, évidemment. Tous les ustensiles de cuisine, toute la vaisselle, tout est impeccablement lavé et rangé. Dans le poste d'équipage, même chose, tout est en ordre. Les hommes ont quand même laissé leurs pipes, ce qui suppose une fuite quand même assez précipitée. En revanche, le sextant, le chronomètre, les livres de navigation ont disparu. Donc on les a pris, les personnes qui ont quitté le navire les ont visiblement pris avec elles. Surtout, et c'est la chose la plus importante, on ne peut pas relever sur le navire la moindre trace de violence. Rien de cassé, rien de déplacé, rien de déchiré, pas de balles fichées dans le pont ou ailleurs, pas de sang. Bref, aucune trace de violence. Dieu sait si certains auteurs, contre tous les éléments disponibles, ont prétendu le contraire, évidemment, car maintenant que nous avons noté les observations faites par Olivier Deveau et les deux témoins, il faut tordre le cou à un certain nombre de contre-vérités. On a dit que des tonneaux d'alcool avaient été défoncés. C'est faux. Ils étaient tous intacts, sauf un dont la bonde avait sauté, mais apparemment par accident. On a dit que l'harmonium de Sarah Briggs avait disparu. C'est faux. Il appartient toujours à ses descendants à l'heure où je vous parle. On a dit que du thé encore fumant et des morceaux de poulet se trouvaient servis dans le carré. C'est faux, archi faux. Toute la cuisine était en ordre. Bref, que n'a-t-on pas dit ? Il me semble que l'affaire est suffisamment extraordinaire sans qu'on ait besoin d'en rajouter, n'est-ce pas ? Quand le second fait au capitaine Morehouse son rapport sur ce qu'il vient de découvrir à bord de la Marie-Céleste, il n'hésite pas un instant quant au parti à adopter. Il faut savoir en effet qu'un navire entièrement abandonné est considéré comme une épave. Or, les lois maritimes ouvrent des droits pour les découvreurs d'épaves sur la moitié des primes d'assurance et la moitié de la valeur embarquée. 1700 tonneaux d'alcool à l'époque, ça représente quelque 37 000 dollars de l'époque. Évidemment, Morehouse ne va pas laisser passer une si belle occasion. Quelle que soit par ailleurs sa peine éventuelle sur la disparition de la famille Briggs et de son équipage, ça nous n'en savons rien. En tout cas, il a bien l'intention de ramener le navire à bon port. Le capitaine donne donc l'ordre à son second de retourner avec quelques hommes sur la Marie-Céleste, de s'en rendre maître et de la conduire dans son propre sillage jusqu'à Gibraltar, ce qui va donc être fait. C'est ainsi que, le soir du 12 décembre 1872, le Dei Gratia fait son entrée dans le port de Gibraltar et que le lendemain matin, le 13 décembre, la Marie-Céleste, déjà nimbée d'une funeste réputation, pénètre à son tour dans le port. Les deux navires se retrouvent donc côte à côte, comme la guerre à New York. On pourrait croire que l'histoire va s'arrêter là. En réalité, la si célèbre affaire de la Marie-Céleste ne fait que commencer, évidemment. En effet, un dossier est tout de suite ouvert à Gibraltar, Gibraltar enclave britannique. Dossier ouvert par le procureur général, avocat général de la reine, procureur de sa gracieuse majesté auprès de l'amirauté, un bonhomme revêche de 71 ans qui s'appelle Sir John Solly Flood. Dès le 18 décembre, Flood, qui ne cache pas d'entrée de jeu combien cette affaire lui paraît louche, interroge très longuement les trois hommes qui, les premiers, sont montés à bord de la Marie-Céleste. Olivier Deveau, reprenant tous les éléments dont il dispose, conclut qu'à son avis, l'ensemble des occupants de la Marie-Céleste a fui le navire à la suite d'une entrée d'eau massive, ce qui, entre parenthèses, se trouve contredit par ses propres constats sur le faible niveau d'eau dans la cale d'une part et sur l'état de marche de toutes les pompes. Par ailleurs, si vraiment il y avait eu de l'eau à bord, on aurait pompé, tout simplement. Bon, vous allez voir qu'on n'est pas au bout de nos peines. La veille de Noël, le procureur se rend lui-même à bord avec des inspecteurs, des scaphandriers, etc. Il va faire une inspection très poussée, au cours de laquelle il relève des traces de ce qu'il croit être du sang et qui se révélera n'être en vérité que de la rouille. Il y retournera avec quatre officiers de marine quelques jours plus tard, le 7 janvier exactement. Il faut dire que les choses sont, somme toute, assez singulières. Le procureur Flood ne va avoir de cesse, dans les semaines qui suivent, de traquer le moindre indice pouvant aller dans son sens. Il s'est en effet forgé très vite une intime conviction, sachant que les deux capitaines se connaissaient très bien, il est convaincu qu'ils se sont entendus à New York avant leur départ pour toucher la prime. Ce qui est aberrant quand on sait que Briggs était propriétaire d'un tiers du navire et qu'il avait tout à perdre à ce genre de magouille. Si tant est qu'un homme pieux et droit comme lui ait jamais eu la tentation de s'y livrer. Mais enfin ça, après tout, on a vu d'autres accommodements avec le diable, avec le ciel. Voyant que les preuves lui manquent, le procureur Flood se rabat ensuite sur une autre hypothèse, celle de la mutinerie. Pour lui, l'équipage, qu'il ait été ou non de mèche avec Morehouse, se serait mutiné contre Briggs et sa famille avant d'abandonner le navire, soit par accord passé avec le capitaine du Dei Gratia, soit sous l'effet de je ne sais quelle crainte ou mésentente survenue plus tard. En attendant, le procureur sera bien incapable d'apporter une preuve quelconque de ce qu'il avance. Et le 15 mars, donc après quand même 87 jours de séquestre, la Marie-Céleste est déclarée libre de regagner sa destination initiale de Gênes et Morehouse en droit de percevoir une prime, mais fixée à seulement un cinquième de ce qu'elle aurait dû être. C'est quand même un drôle de justicier, si je puis dire, ce Flood. Vous avouerez que c'est un peu bizarre. En attendant, en cette année 1873, le mystère de la Marie-Céleste demeure entier. C'est la première fois depuis sa création que la cour de la vice-amirauté reconnaît son impuissance à résoudre une énigme maritime. My God!
Et nous vous rappelons, chers auditeurs, que vous pouvez réagir tout au long de l'émission. Nous envoyez vos messages, vos questions par mail sur europe1.fr, Twitter, celui de Franck Ferrand ou hashtag ACDH, ou encore sur la page Facebook de l'émission. Dans un instant, sur Europe 1, la suite de votre récit Franck Ferrand sur la Marie-Céleste.
Franck Ferrand, 14h, 15h. Sur Europe 1.
Et nous revenons avec vous, Franck Ferrand, au mystère de la Marie-Céleste.
Vous imaginez bien, Céline, que cette histoire vraie d'un vaisseau fantôme était faite d'emblée pour titiller l'imagination de tous les détectives professionnels ou amateurs. Évidemment, une abondante littérature va paraître sur ce qui s'impose vite comme le plus fascinant de tous les mystères. Alors, toutes les explications jusqu'au plus farfelu vont être apportées pour tenter de résoudre l'énigme. Certains évoqueront l'attaque des occupants de la Marie-Céleste par une pieuvre géante. Bah, pourquoi pas. D'autres vont faire appel à je ne sais quelle extension spontanée du triangle des Bermudes qui se serait dilaté d'un seul coup. Sans oublier l'hypothèse des extraterrestres, hein, puisqu'il y a quand même deux livres qui ont été écrits entièrement là, sur ce sujet. Le très populaire Strand Magazine aura même l'idée très séduisante de demander à plusieurs grands romanciers d'imaginer leur solution de l'énigme. Et on va voir des maîtres, hein, comme Sir Arthur Conan Doyle, par exemple, proposer leur version du drame. Toutes sortes de survivants imaginaires seront mobilisés par la suite, faisant rêver des générations d'aventuriers en herbe. Alors, parmi les solutions romanesques, la plus fouillée La plus séduisante reste celle concoctée après la Première Guerre mondiale par un certain Keating. Je vous la résume à grands traits. Le capitaine Morehouse, donc du Dei Gratia, aurait prêté 3 hommes d'équipage au capitaine Briggs, qui avait éprouvé des difficultés à recruter. Il était prévu que les 2 navires se retrouvent donc aux Açores. Or, le capitaine Briggs et sa famille auraient beaucoup déplu au second de la Marie Céleste. Et au cours d'une tempête, le pesant harmonium arrimé au mur du salon se serait détaché, aurait écrasé Mrs. Briggs, rendant le capitaine soudain veuf. Fou de douleur, quand je dis fou, c'est littéralement fou de douleur. L'équipage en aurait à ce moment-là profité pour se saouler, bagarre générale. Le capitaine, pour se suicider, se serait jeté à l'eau. Après quoi, l'équipage aurait abandonné la Marie Céleste au large des Açores pour ne pas avoir à rendre de compte à celui du Dei Gratia et à l'amirauté. Bon, le problème, c'est que pour élaborer cette version très romanesque, Keating a eu recours aux prétendues confidences d'un survivant qui s'appelle Pemberton, et des confidences qui se révéleront, après vérification, tout à fait imaginaires. Le scénario, il faut bien le dire, a l'air comme ça assez séduisant, il est très romanesque, mais il est faux. Et d'ailleurs, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a jamais eu à bord d'alcool buvable, en tout cas en quantité suffisante. Au final, si dans cette affaire quelqu'un s'est approché, me semble-t-il, de ce qu'a pu être sans doute la vérité, et je vais m'empresser de poser la question à Dominique Lebrun dans un instant pour savoir ce que lui-même pense de cette affaire, si quelqu'un s'en est approché, c'est, me semble-t-il, le patron de la firme Winchester, propriétaire principal de la Marie Céleste. Il s'appelait le capitaine Winchester et il avait traversé l'Atlantique à son tour pour se présenter au procureur Flood à Gibraltar le 15 janvier. Comme sa thèse ne cadrait pas avec les certitudes de l'homme de l'amirauté, on a préféré sur le coup ne pas donner suite à sa théorie. Mais plus d'un siècle plus tard, force est de considérer qu'elle est, cette théorie, assez convaincante. Elle explique tout par la nature même de la cargaison. La Marie Céleste transportait de l'alcool commercial, donc non buvable, je vous l'ai dit, stocké dans des tonneaux cerclés d'acier qui étaient eux-mêmes arrimés dans la cale sur, je vous l'ai dit, un lit de lest. À l'approche des Açores, sous l'effet d'une chaleur de plus en plus forte, l'alcool liquide s'est mué en gaz qui a dû commencer à s'échapper par infime quantité, s'échapper des fûts pour venir se concentrer dans cette cale hermétiquement close. Arrive là-dessus la fameuse tempête dont je vous ai parlé, qui par frottement des cercles d'acier a dû provoquer des étincelles qui ont pu mettre le feu au gaz, d'où une ou plusieurs détonations qui ont dû laisser penser aux occupants du navire qu'il allait exploser. De sorte que, sitôt le calme revenu, les occupants n'auraient rien eu de plus pressé que de grimper sur le canot de sauvetage, sans doute relié au navire. Seulement, il y a eu une rupture provoquée soit par un coup de vent, un coup de mer, que sais-je, et l'embarcation de sauvetage a fait naufrage. Quant à la Marie Céleste, eh bien, elle est donc demeurée seule, vide et errante. Mais enfin, ont objecté les gens de mer, comment un capitaine aurait-il quitté son navire pour de simples détonations dans la cale? Il faut croire qu'il avait été impressionné, à moins que le capitaine lui-même n'ait été souffrant à ce moment-là, voire déjà mort. Après tout, on n'en sait rien. Au moment où s'est produit l'incident, on n'en saura jamais rien. Je me dis, moi, que c'est peut-être ce qu'il y a de plus beau dans cette affaire de la Marie Céleste, l'infinité de scénarii qu'elle rend possible. Bonjour Dominique Lebrun. Alors évidemment, la première chose que nous allons faire avant d'évoquer un certain nombre d'autres cas de vaisseaux fantômes, de mystères et d'énigmes maritimes, c'est de vous demander votre avis à vous. Quelle est la véritable solution de la Marie Céleste selon Dominique Lebrun? C'est dans un instant.
Franck Ferrand, 14h-15h sur Europe 1.
de la bande originale du film Pirates des Caraïbes sorti en 2003. Vous nous parlez cet après-midi, Franck Ferrand, du mystère de la Marie Céleste avec votre invité Dominique Lebrun, écrivain spécialiste de l'univers maritime.
Et Dominique Lebrun qui présente chez Omnibus un volume consacré aux naufragés, toutes sortes de témoignages vécus entre le 17e et le 20e siècle. Alors on y parle des esclaves de l'île Tromelin, vous savez, on y parle du radeau de la Méduse, terrible affaire dont j'ai souvent eu l'occasion de vous entretenir ici même, et puis des Robinson d'Auckland, et puis de l'exploit de Shackleton, dont on aura peut-être l'occasion de reparler ensemble ici même, et puis du drame de la Jeannette, qui est une autre affaire de vaisseau fantôme. Alors avant de parler de la Jeannette, il faut que nous réglions l'affaire de la Marie Céleste, Dominique Lebrun. Quel est votre avis à vous sur ce qui s'est passé? Comment se fait-il que le second, ce Holly, ce Français, ce second du Dei Gratia, découvre un navire entièrement vide de toute présence humaine et même animale, d'ailleurs, puisque même le chat a disparu au passage, alors que tout est impeccable, tout est bien rangé, on a l'impression vraiment d'un vaisseau fantôme.
Alors, tout est impeccable, je ne sais pas. Je ne sais pas, vous avez dit qu'il reste, en termes de voilure, foc et trinquette,
ah oui,
voilure de gros temps. C'est ce qui explique que le bateau ait pu faire route sans se mettre bout au vent. C'est une position d'équilibre normale, les voiles d'avant, donc avec barre libre, il a pu continuer à faire de la route. C'est un brigouellette. Que sont devenues les voiles carrées? Est-ce qu'elles ont été ferlées proprement? Est-ce qu'elles pondaient? Si ça avait été le cas, le second l'aurait dit. Quant à la grand voile aurique derrière, c'est un fichu travail que de la ferler correctement. Dans quel état était-elle? Si elle était bien ferlée, c'est que le bateau a été volontairement abandonné de façon tout à fait raisonnée. Ou bien, peut-être aussi, y a-t-il eu du très gros temps avant? On a donc réduit la voilure, gardé seulement ses deux voiles d'avant. Et c'est ensuite que s'est passé le drame.
Je pense qu'il y a donc bien deux hypothèses crédibles dans cette affaire. L'hypothèse d'un abandon du navire par un équipage qui était affolé d'avoir entendu les détonations dans la cale. Ça, c'est la version, la dernière version en date, si je puis dire.
Et puis une autre.
Et puis l'autre hypothèse, c'est celle du juge Flogg, qui estime, lui, qu'il y a eu escroquerie à l'assurance,
oui,
en quelque
alors,
sorte.
Autre chose, pas de carte, pas de chronomètre, pas de sextant.
Les instruments ont été emportés.
Ce sont les outils qu'emporte un capitaine. Quand on va devoir faire une grande traversée sur une embarcation dite de sauvetage à ce moment-là, on prend de quoi faire de la navigation et retrouver la terre, en l'occurrence les Açores. Sur l'hypothèse de fuite de gaz d'alcool, on peut imaginer autre chose. C'est un coma éthylique de tout le monde. Ces vapeurs d'alcool, ils les ont respirées. Quel effet ça a? Aussi bien ils sont entrés dans une logique complètement folle d'abandonner le navire pour en plus le capitaine est puritain, va-t-on savoir.
Ils étaient complètement ivres, c'est ça?
Ivres ou... S'ils n'étaient que ivres, à la limite ce n'est pas grave, mais peut-être que simplement ils ont perdu tout sens des réalités et ont décidé qu'il fallait abandonner ce navire qui était une œuvre du démon, n'importe quoi. Avec un capitaine puritain, tout est possible. Et que sciemment ils sont montés à bord de leur embarcation. Bon, ça, je dis tout ça pour aller dans votre sens.
Est-ce qu'on pourrait pas imaginer, alors encore une fois, c'est une véritable matrice à rêve que cette affaire,
oui,
de la Marie Céleste, mais est-ce qu'on pourrait pas imaginer que tout le monde, effectivement, à bord, aurait subi mauvaise fortune,
oui,
serait même mort,
oui,
et que ceux qui découvrent l'épave jettent les cadavres à la mer pour dire on a trouvé une épave et pour récupérer la...
Non, parce
non
qu'en termes de droit maritime, ça revient au même.
Ah bon.
Avoir retrouvé donc un navire avec ses occupants morts et récupérer l'épave...
C'est la même chose.
Ce sera la même chose. Peut-être y aura-t-il à négocier sur le montant de la prime d'assurance, mais là aussi, justement, il y a à discuter.
Alors voilà,
pourquoi
ça, c'est la
en touche-t-il
question,
si peu? Normalement,
un cinquième seulement
un
de ce qu'il aurait
seulement,
dû toucher.
Je crois savoir à l'époque, parce que le droit a beaucoup changé, je crois savoir qu'à l'époque c'était 50%.
50%, oui.
Alors
ça
aussi, c'est assez étrange.
Oui, c'est-à-dire que non seulement le juge ne lui accorde qu'un cinquième de la,
oui,
somme, donc on est sur le principe du common law, hein, c'est une loi britannique, le juge peut le décider. Mais enfin, ce qui est d'autant plus étonnant, c'est que lui ne fasse pas appel, qu'il accepte la décision du juge Flogg. C'est assez,
oui,
assez étrange.
En matière d'assurance, en matière d'indemnisation de ce genre, on fait rarement appel.
Oui, voilà.
Lorsque tout ce qui est pris est pris,
et bon,
on s'en satisfait,
oui, voilà,
absolument.
Ça. Alors, vous pensez-vous qu'il y aurait pu y avoir entente des deux capitaines à New York et qu'il était prévu que l'un des deux abandonne donc son navire? Alors, qu'est-ce qu'il était devenu? Il était censé naviguer simplement avec la chaloupe jusqu'aux Açores, c'est ça?
Qu'est-ce qui empêche qu'il ait embarqué sur les Dei Gratia et qu'il était débarqué ailleurs avant que Dei Gratia arrive à Gibraltar?
Carrément. Ah oui.
Si ce n'est que, dans un cas comme ça, ça ne rate jamais, quelqu'un parle et on sait toujours la vérité
après.
Mais
là, ça n'a pas été le cas.
Et là, ça n'a pas été le cas.
Et Dieu sait pourtant que de très nombreux journalistes, toutes sortes de romanciers, un grand nombre d'esprits curieux se sont penchés sur le cas et qu'on n'a jamais rien entendu.
Non, c'est pour ça que je pense qu'on est dans quelque chose qui est complètement irrationnel et dont l'hypothèse de tout le monde qui saute à l'eau après avoir respiré des alcools invraisemblables dû à une fuite dans les fuites d'alcool, c'est pourquoi pas, pourquoi pas.
Alors, ces vaisseaux fantômes, ils ont toujours plus ou moins hanté l'imaginaire des marins. Ce qu'il faut commencer par dire, c'est que ce sont des cas extrêmement rares. Il n'y en a pas...
Détrompez-vous.
Ah bon, alors...
J'ai les statistiques de la marine américaine.
Alors dites-nous.
Dans les dernières années du 19e siècle. Je prends mes notes, excusez-moi. Oui. Grosso modo, on peut dire qu'entre 1870 et 1900, il y a eu jusque 900 épaves abandonnées dans l'Atlantique Nord, entre grosso modo la longitude des Açores et la côte est américaine.
Ah oui, donc toujours en plus, à peu près dans le même... Oh bah,
tout simplement parce qu'à l'époque, on a une extrême augmentation des trafics entre le vieux monde et le nouveau monde. À l'époque, les navires sont en bois, donc ils coulent difficilement, restent entre deux eaux. Ce sont des bateaux qui sont plus ou moins bien entretenus, avec des équipages plus ou moins compétents seulement. Donc les naufrages sont très 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 fréquents.
Il faut bien voir ça. À la quantité du trafic qui à l'époque est, hein, bien sûr.
À l'extraordinaire augmentation du trafic à l'époque, tout simplement. Donc ces épaves deviennent de grands dangers et la marine américaine en a conscience et commence donc à analyser. Tous les rapports de mer sont épluchés, on pointe, on analyse vers où ces bateaux peuvent aller. Il y a même eu des campagnes de destruction d'épaves. Donc ces bateaux fantômes, et en plus ils ont un nom d'un point de vue juridique, qui est un mot merveilleux, on appelle ça un dérélict.
Un derelict.
C'est beau, hein?
Oui, c'est l'abandonné, en quelque
l'abandonné.
Sorte. L'abandonné. C'est assez fascinant, ces histoires. Mais pourquoi la Marie-Céleste aurait-elle beaucoup plus fait parler d'elle que les autres à ce moment-là?
Ça, c'est peut-être le vrai fond de la question. Pourquoi est-on au courant de l'histoire de la Marie-Céleste?
Et pas des autres.
Dans le fond. Et pas des autres. Et moins des autres. En quoi cette histoire? Alors, sauf que, effectivement, on trouve personne à bord dans un bateau en parfait état. Mais ça, c'est une chose qui est arrivée assez souvent. On a eu des cas d'épidémie, des navires, par exemple, qui étaient pris dans les calmes tropicaux avec beaucoup d'algues qui poussaient sous la coque, qui étaient immobilisés et qui étaient emportés par les courants, qui se sont trouvés du côté de la mer des Sargasses. Et puis, on retrouvait des équipages de morts-vivants, quelquefois, des gens qui étaient soit morts, soit en train d'agonir à faute de pouvoir se nourrir et boire. C'était une chose qui était relativement fréquente. La notion de navire fantôme nous frappe beaucoup aujourd'hui. Je pense qu'à l'époque où on naviguait beaucoup à la voile, ça frappait moins les esprits.
La grande, évidemment, la légende d'origine, c'est celle du Hollandais volant, le Fliegende Hollander de Wagner, bien entendu.
Oui, hein, et... Alors ça, c'est une histoire vraie à l'origine. On connaît même le nom du capitaine et les dates.
Oui, on est en plein milieu du XVIIe siècle, 1650.
1650 hein. Précisément. C'est l'époque donc de la Compagnie des Indes néerlandaise qui gère les colonies qui correspondent aujourd'hui donc à l'Indonésie, c'est en l'occurrence Batavia, actuelle Jakarta. C'est donc la fortune des épices et tous les ans, de grands galions font la traversée en utilisant précisément les vents de mousson pour faire l'aller-retour entre les Pays-Bas et Batavia. Et Bernard Fock, lui, ce capitaine invraisemblable, réussit à naviguer beaucoup plus vite que les autres. Que ce soit un bon navigateur, c'est une chose, c'est tout à fait possible, mais à ce point-là, c'est qu'il avait forcément conclu un pacte avec le diable, au moins. C'est le moindre des choses. Et puis un jour...
C'était le Faust des mers.
Oui, alors ce qu'on peut imaginer, c'est que Bernard Fock simplement était capable de torcher la toile plus que les autres, notamment dans les vents portants. Très vraisemblablement, d'ailleurs, il descendait très sud, entre l'Afrique du Sud et l'Australie, pour profiter des grands vents d'ouest, pour ensuite remonter vers les passes.
Il faisait un détour, mais un détour rapide, en fait.
Exactement, et l'affaire du Batavia s'est passée comme ça, d'ailleurs. Donc, vraisemblablement, il a dû le faire avant les autres, et mieux que les autres. Et puis un jour, ben, il a trop forcé la toile, il a dû se mettre en travers, être culbuté par une vague gigantesque, couler, et puis il a disparu. Seulement...
Le navire, lui ?
Non, lui-même et son navire, avec un équipage de fantômes, ont été vus sur tous les océans, et c'est devenu le navire fantôme universel par excellence.
On croyait le voir, en tout cas. Il apparaissait
rien.
Dans les lunettes.
J'en sais rien. Si en ce qui me concerne, je l'avais croisé, je vous aurais dit, je l'ai vu.
Oui, après tout, pourquoi pas.
Mais pourquoi pas.
Et c'est une belle légende, d'ailleurs.
Elle est magnifique.
Oui, parce que il y a quelque chose d'envoûtant dans ce navire qui est purement fantôme, alors lui.
Tout à fait.
Une sorte de spectre naval.
Un spectre chose. Maritime, ouais.
Tout à fait extraordinaire.
Tout à fait.
Alors, il faut que nous parlions de l'affaire de la Jeannette. Nous y venons dans un instant.
Franck Ferrand, 14h, 15h sur Europe 1.
Et nous sommes cet après-midi au cœur de l'histoire du mystère de la Marie Céleste avec vous Franck Ferrand et votre invité Dominique Lebrun, écrivain et spécialiste de l'univers maritime.
Alors, parmi les histoires de vaisseaux fantômes, il y en a une qui figure dans votre recueil de récits de naufragés, Dominique Lebrun, ce recueil que vous présentez aux éditions Omnibus. Il sera disponible la semaine prochaine.
La semaine prochaine, en effet.
Et c'est l'affaire de ce navire d'exploration polaire qui s'appelait la Jeannette.
La Jeannette, oui. C'est grâce à la Jeannette qu'on a envisagé d'arriver au pôle Nord en utilisant le mouvement naturel de la banquise arctique. L'histoire est la suivante. Donc, nous sommes à la fin du 19e siècle. Dans les grands défis qui restent dans la planète à découvrir, il y a le pôle Nord, dont on ne sait pas.
Bien sûr, oui.
Rappelons-le, on ne sait pas à l'époque s'il s'agit d'une île, s'il s'agit d'une banquise.
C'est pas exactement la forme que ça peut prendre.
Il faut y aller. Voilà. Il faut y aller. Et donc, la Jeannette, qui est armée par ce fameux patron de presse américain qui avait déjà lancé l'opération avec Livingstone, décide d'envoyer un bateau vers le nord. C'est un bateau polaire très bien équipé, un équipage on ne peut plus performant. Ils entrent par le détroit de Bering et donc montent, gagnent, sont pris par la banquise, font un premier hivernage, un deuxième hivernage et là, la pression des glaces devient trop violente, il va falloir abandonner le navire. Mais ces gens-là sont prêts à tout, ils ont prévu déjà les traîneaux sur lesquels ils chargeront les embarcations du bateau, ils ont réparti la nourriture de façon très stricte, ils ont même prévu les menus pour ne pas avoir à réfléchir en cours de route dans le froid polaire. C'est vraiment des grands professionnels.
Une très belle organisation.
Ils ont refait des vêtements tout neufs pour l'équipage et ils partent, ils poussent les traîneaux sur la banquise, rejoignent la mer. Et là, donc, les trois embarcations partent. Il y en aura une qui va couler très vite. Deux autres vont faire terre du côté de la Sibérie, dans l'embouchure du fleuve de l'Alena, dans la grande zone très, très complexe. Et puis, il y aura juste quelques survivants. Ça, c'est la première histoire. Mais qu'est-il advenu de la Jeannette? La Jeannette a fait naufrage entre le détroit de Bering et, on va dire, les très hautes latitudes polaires. Quelques années plus tard, on retrouve les traces de la Jeannette devant la Sibérie.
Et voilà.
Autrement dit, elle a fait tout le tour de la calotte glaciaire, emportée par la glace, par le mouvement naturel des courants. Et c'est là que le Norvégien Nansen se dit « J'ai trouvé le moyen d'atteindre le pôle Nord. Je vais construire un bateau capable de supporter la pression des glaces, ce sera le Fram, qui existe toujours, qu'on peut voir à Oslo. Je vais me laisser prendre par la banquise. »
Et la banquise va faire le travail toute seule, en fait.
Et la banquise va faire le travail pour moi, et arrivera un moment où je serai pas loin du tout du pôle, et à ce moment-là, je débarquerai avec mes chiens, mes traîneaux, mes skis, et nous filerons au pôle Nord. Ça n'a pas tout à fait marché comme ça. En l'occurrence, il a fait une expédition sur la glace qui est un cas de survie exceptionnel. La chose stupéfiante, c'est qu'il a retrouvé la Norvège en même temps que le Fram, à quelques jours près, pratiquement 3 ans plus tard quand même. Mais donc, ce bateau fantôme qui a été la Jeannette a permis d'apprendre ce qui se passait là-haut dans la banquise arctique.
Et puis alors, magique. Vraiment fantôme, parce que il devait être couvert de givre, de glace.
Oui,
ça devait être absolument magnifique, une sorte d'immense culture de glace, comme ça, il faut imaginer ça.
Je crois que les mâts étaient tombés et qu'il n'y avait
longtemps.
Pas grand-chose.
Ah, c'est dommage.
Mais allez, gardons l'image.
C'est mon imagination poétique qui vogue. Quelques années plus tard, il y a l'affaire du Copenhague, ce 5 mars, on est en 1928.
Alors là, on est en 28, là on plaisante plus, parce qu'en plus il y a la radio à l'époque. Donc alors, le Copenhagen, c'est un 5 mars, navire école, il quitte le Rio de la Plata, destination de l'Australie, passe non loin de Tristan da Cunha, donc dans l'Atlantique Sud, passe un message radio donnant sa position, et puis plus rien. Là où c'est gênant, c'est que des gens qui n'étaient pas au courant du naufrage vont le voir dans le Pacifique, du côté de l'île de Pâques, au large du Pérou, au large du Chili. La question qui se pose vraiment, c'est que ça pourrait être un autre navire. Impossible. Il y avait à l'époque un seul 5 mâts en tout et pour tout sur la planète mer tout entière. Ça ne pouvait être que lui. Et puis, il y a une hypothèse donc que l'on retrouve, mais c'est dans les années 30, au Cap, donc Afrique du Sud cette fois-ci, où un capitaine de chalutier parmi son poisson. Et là, bon, ça me dérange un peu le coup de la bouteille avec le message dedans. Bon, mais pourquoi pas? Allez, on va l'accorder. Hein. Une bouteille, dans la bouteille, un message où il peut déchiffrer Copenhagen, des positions géographiques, des coordonnées géographiques, et puis un espèce de gribouillis, on croit voir banquise, encerclée, etc. J'ai reporté évidemment sur les cartes cette position. Ça peut être un endroit où de la banquise antarctique se serait détaché et que ce cinq mâts soit trouvé piégé par un énorme monceau de banquise et dans la pression l'ait fait exploser, c'est tout à fait concevable.
Après tout, oui.
Et alors après,
on aurait disloqué en quelque
oui,
sorte.
Oui, ou encore plus drôle, enfin drôle. C'est pas
plus fort.
Plus fort, oui. Excusez-moi, c'est pas des mots à dire, ça. Plus fort. Imaginons qu'il ait été pris, que ça ait duré longtemps, qu'il n'y ait plus de vivre à bord, pourquoi pas, et que ce morceau de banquise, avec son grand voilier, soit parti à la dérive, soit monté doucement vers le Pacifique, où il est fondu, et que le bateau se soit trouvé libéré, et que donc on l'ait vu. Seulement souci, c'est qu'après, il a bien été quelque part, et donc on aurait dû le retrouver. Or, ce n'est pas le cas. Et donc, du Copenhague, on ne sait rien.
On ne sait rien. Ça reste un mystère.
Ça reste un mystère total.
Il y a eu l'affaire beaucoup plus proche de nous, dont on a beaucoup parlé. On en disait un mot tout à l'heure pendant l'interruption. C'est l'affaire Alain Colas, bien entendu.
Donc, la première route du Rhum, c'était en, mon Dieu, en 78.
Oui, j'allais dire 70. Ça, la toute fin des années 70. Oui.
78. Donc, alors, la chose tout à fait étonnante.
Oui, tu m'as Manureva,
voilà, qui est un trimaran, qui de toute évidence se désintègre en Atlantique. L'ennui, c'est que on n'a jamais vu un bateau, y compris de cette taille-là, c'est-à-dire une coque de 20, 22, 23 mètres, si j'ai bonne mémoire, ne pas laisser une trace. On n'a rien trouvé. Et le mystère, il est là. Alors du coup, on a dit qu'il avait des dettes, il était reparti faire sa vie, au moins en Chine ou dans les îles du Pacifique, hein, qu'importe. Le fait est qu'on n'a rien trouvé.
Quand on aime, ce qui est mon cas, se reposer en regardant la mer, il n'y a rien de plus, moi je ne connais rien en tout cas de plus rassérénant. En lisant notamment de beaux récits maritimes, on ne peut qu'être emporté par toutes ces énigmes, par tous ces mystères. Il y en a eu comme ça tous les siècles. Des apparitions, des disparitions de navires, des réapparitions. Il y a quelque chose de magique dans tout ça, évidemment.
Oui, d'autant plus que quand on a pratiqué un peu longtemps la mer, on devient un petit peu mystique. Et mon Dieu, on est prêt à tout accepter, on est prêt à tout voir. Pour ma part, j'ai vu en mer, comme au désert, des mirages. Donc j'ai vu une île que je n'aurais jamais dû voir. Mais le phénomène est classique, vibration de l'air, pas tant très très chaud, ça monte, ça se voit. Donc à partir de là, aujourd'hui, on le sait que c'est un mirage. Mais la même vision, ça fait de ça 150 ou 200 ans. Ça, j'imagine parfaitement qu'on puisse décider qu'il y avait une île fantôme qui se baladait quelque part au nord de la Bretagne. Pourquoi pas?
Il y a beaucoup de croyances et de superstitions chez les marins, à bord bien entendu, mais d'une façon plus générale. Il y a même des mers ou des coins de mer qui sont réputés hantés pour certains, maléfiques pour d'autres.
Oui, vous pensez à la baie des Trépassés,
par exemple,
j'imagine.
Oui.
Alors, la baie des Trépassés qui se trouve exactement au nord du Ratsin, c'est-à-dire la pointe du Rat, cette pointe sud du Finistère. Là, il y a toujours des tempêtes extraordinaires. Et puis cette île au ras de l'eau, qui cet hiver a failli être submergée une ou deux fois. Et la baie des Trépassés est appelée comme ça pour deux raisons. La première est que par un phénomène de conjonction des courants de marée et des vents dominants, les cadavres de gens qui se sont noyés, qui ont été perdus en mer, s'y retrouvent très volontiers. C'est une chose qui arrive dans deux, trois endroits, enfin j'en connais au moins deux sur les côtes de Bretagne, l'autre est à côté de Perros-Guirec, à côté de l'île de Tomé, ça s'appelle les Couillons de Tomé, on y retrouve souvent donc des cadavres. Mais les Trépassés, c'est aussi autre chose, c'était reconnu comme un point d'embarquement pour les sépultures, pour les, donc les dépouilles mortelles.
C'est le Styx des anciens Celtes, hein, si j'ose dire.
Fait, tout à fait. Les druides décédés étaient embarqués sur cette plage pour aller être enterrés sur l'île de Saint en face.
Donc évidemment, là, il y a toute la mythologie qui vient se greffer sur cette barque du passage, en quelque sorte.
Alors, barque du passage, qui ne doit pas être confondue avec le Bag en Nose. Mmh. Qui est encore un autre bateau fantôme, celui-là, et en réalité il en existe même deux. Le Bagan de Nos, est ce bateau que l'on croise la nuit au large de l'île de Saint et qui est barré par le premier mort de l'année, avec donc des gens qui suppliquent.
La barque de la nuit, hein, c'est ça.
La barque de la nuit, ouais. Qui a son équivalent terrestre dans la légende bretonne, Carrigal en Ancou. La charrette de la mort qui se promène de village en village pour embarquer les damnés. Bon, en fait, tout ça, c'était inventé pour justifier les sortes de beuveries quand on rentre pas à la maison à l'heure. Ça, c'est, il y a une analyse très pointue de la chose.
Mais pourquoi on était en train de rêver, là? Je voyais les yeux écarquillés.
Bon, je reviens
de Céline.
Au rêve. Je vous ramène au rêve. Je vous ramène au rêve. Autre version de la barque de la nuit dans Bag en Nose, c'est ce qui arrive régulièrement à des pêcheurs de là-bas. Ils sont prévenus, et quand ça leur arrive, ils sont pas prévenus une nuit. On frappe sur leur volet, ils disent, bon, il doit y avoir un naufrage, il faut donner un coup de main, ils descendent, ils voient personne, mais une espèce de force irrésistible les emmène vers la plage, mais elle serait passée, et là, il y a une barque qui les attend, une barque sans personne à bord, et ils se mettent à la barre s'il y a une voile ou aux avirons, s'il y a des avirons, pour passer la vague, et en fait, ils sont chargés d'aller porter l'âme d'un disparu au large, ce qu'ils vont faire, ils vont revenir ensuite, et le lendemain, ils se rappelleront de rien du tout, comme s'il y a eu une nuit d'ivresse.
Oui, tout ça passe sur leur mémoire comme le fer sur le linge.
Voilà.
Il y a évidemment un très grand nombre de contes, de légendes de la mer, et c'est vrai que la Bretagne est le pays d'élection de tous ces contes. Pour revenir à nos affaires, si je puis dire, et à un certain nombre de mystères plus modernes et un peu, malheureusement d'ailleurs, un peu plus pragmatiques, il faudrait évoquer quelques années seulement après l'affaire de la Marie-Céleste. Ce dont vous nous parliez en préparant cette émission, c'est l'histoire du vapeur, le frigorifique. On est là en 1884, hein, c'est-à-dire une dizaine d'années après les événements.
C'est une histoire qui a dû être terrifiante à vivre, parce que ça se passe au large de l'île de Sein, dans la chaussée de Sein. Donc le frigorifique porte très bien son nom, c'est le premier navire frigorifique français. Et dans cette brume épaisse, quoique naviguant à toute petite vitesse, il est abordé par un navire anglais. Boum. Le choc est terrible, peu de chances d'en ressortir. On met les embarcations à la mer et l'équipage du frigorifique est récupéré par le cargo anglais, dont j'ai oublié le nom. Tout le monde se retrouve sur le cargo anglais. Il paraît même qu'un lieutenant du cargo anglais...
Le anglais s'appelait le Rumney.
Le Rumney, merci. Voilà. Vous inquiétez pas les gars, on ne fait jamais deux fois naufrage le même jour. Quelques minutes plus tard, par le travers, une étrave terrible et le Rumney, à son tour, coule. On met toutes les embarcations à la mer, tout le monde se retrouve aux avirons. Bon, il fait l'américaine parce qu'il y a de la brume. Et tout d'un coup, dans la brume qui se lève, il distingue encore un navire. Et ça ressemble bel et bien au frigorifique. Et l'analyse immédiate, c'est qu'il est revenu pour se venger. Et en fait, c'était vrai. Parce qu'en fait, ils vont pouvoir aborder le frigorifique. Et en montant à bord, ils vont découvrir trois choses. D'abord, que la voie d'eau n'était pas si importante que ça. Deux, il y avait encore un peu de pression à la machine. Trois, la machine était embrayée. Et quatre, la barre était coincée légèrement sur tribord. Le navire faisait d'énormes cercles. Et ça lui avait permis d'aborder et le ramener et ensuite de se retrouver à proximité des embarcations. C'était un faux fantôme.
Enfin, magnifique. Merci beaucoup Dominique Lebrun. Vraiment, vous savez, c'est une expression, on emploie souvent cette formule, mais là c'est tout à fait vrai. On vous écouterait pendant des heures. Vous présentez, je le rappelle, chez Omnibus, ce recueil de témoignages vécus de naufragés. Ça s'appelle tout simplement Les Naufragés. Merci beaucoup.
Sur Europe 1, vous répondrez, Franck Ferrand, à la question de Caroline sur l'origine de l'expression « il y a belle lurette ».
Europe 1, au cœur de l'histoire.
Retour aux origines.
Et vous répondez, Franck Ferrand, à la question de Caroline. Elle nous l'a envoyé via le site internet de l'émission. Caroline aimerait connaître l'origine de l'expression « il y a belle lurette ».
Alors, nous étions dans les brumes et les mystères, mais on va y rester si vous voulez bien, parce que pour tout vous dire, c'est une origine assez floue. C'est l'origine de cette expression « il y a belle lurette ». Ça vient probablement de « belle lurette », tout simplement une petite heure, vous savez. Cette expression apparaît sous la plume d'André Theurier en 1875 dans la revue des Deux Mondes. Ce ne peut être une grive, les sons sont trop énergiques. Quant au rossignol, il y a belle heurette qui ne chante plus, écrit Theurier. Et puis au fil du temps va apparaître le mot lurette, et c'est donc l'abréviation de belle et heurette. Hein. Belle heurette est devenue belle lurette, voilà d'où ça vient. Très probablement, ce qui est amusant, c'est de constater qu'il y a un opéra comique qui avait été conçu au départ par Jacques Offenbach et qui est complété, présenté par Léo Delibes en 1880 au Théâtre de la Renaissance à Paris, et qui s'appelle précisément La belle lurette. Alors ça, vous avouerez que c'est quand même plus étonnant, parce que on a carrément été jusqu'à inventer un personnage qui s'appelait la belle lurette et qui va devenir une sorte d'héroïne des planches. Voilà, je ne suis pas persuadé que Caroline soit entièrement satisfaite de ma réponse, parce que on peut pas dire que ce soit lumineux comme explication, mais encore une fois, je ne suis pas persuadé d'avoir grand chose de beaucoup plus précis à lui fournir. Il y a belle lurette, qu'on le saurait si c'était le cas.